Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias du papier, au numérique le plus virtuel et toutes les formes de culture. Tiens, ce matin, une plateforme numérique autour de Kandinsky et on répondra à cette question, il est comment le nouveau Stephen King? Vous entendrez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille et Eva Rock pour son zapping du lendemain. Notre infomédia. Et si les titres Internet 3.0 réinventaient l'entretien en tête-à-tête à l'ancienne? C'est un peu l'idée de la face catchée que présente Manu Katché sur Yahoo.fr. Après Yannick Noah, il passe sur le grill Patrick Bruel. Nous sommes avec Manu Katché donc et le patron de Yahoo France, Alexandre Delperrier. Puis nos invités, Denis Robert, le journaliste d'investigation, l'homme qui a révélé l'affaire Clearstream et qui a failli perdre la santé et ses économies. Il lance Blast, une web télé au financement participatif. On y trouvera de l'enquête, de la culture, mais également de l'humour, avec le retour annoncé de Bruno Gassiot qui va renouer avec l'esprit des guignols de l'info. Si. Et puis enfin, la comédienne Annie Dupéret pour une nouvelle série sur France 2, La Faute à Rousseau, l'histoire d'un prof de philo totalement déjanté, Monsieur Rousseau donc, dont elle incarne la maman, ancienne gloire du théâtre sur le retour, fallait oser. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour à tous.
Bonjour Antoine Janton.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Un appel lancé par Nicolas de Taverneau ce matin, une première mondiale, les nouveautés de la prochaine saison de Koh-Lanta et puis un formidable documentaire sur les dessous d'Instagram.
Mais d'abord, on commence avec les audiences, avec vous Louise, et d'ailleurs c'est pas sûr qu'on commence avec les audiences.
Mais non, parce que pour l'instant on n'en a pas, il y a un petit problème technique chez Médiamétrie, hein. C'est pas moi qui suis en grève, c'est la société qui mesure les audiences Médiamétrie, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, je reste là, si on les reçoit d'ici la fin du journal, je vous les donne. Sinon, peut-être plus tard dans l'émission, je peux revenir à tout moment.
Vous parlez de grève, c'est pas une grève technique à Médiamétrie.
Non, c'est un problème technique.
On commence donc ce journal, Antoine, avec le plaidoyer du patron du groupe M6.
Nicolas de Taverneau veut une consolidation du secteur de la télévision en France. Il le dit au Figaro ce matin. Consolidation nécessaire, selon lui, et à brève échéance. Sans quoi, affirme-t-il, le marché français sera bientôt laminé par les plateformes comme Netflix ou Amazon. Et ce mouvement de concentration, Nicolas de Taverneau est persuadé qu'il se fera autour de son groupe, ce M6, en bonne santé financière, 280 millions d'euros de résultats nets l'an dernier et officiellement en vente depuis quelques semaines, prix estimé 3 milliards d'euros.
TF1 prépare un projet de JT personnalisé.
Oui, il s'agit précisément de personnaliser le replay du journal. L'idée est de pouvoir choisir non seulement la durée, mais aussi les thèmes, les sujets qui y sont traités, du moins en partie, car à trop vouloir personnaliser, il y a un risque dont la chaîne a conscience. Yannick Hézard, responsable de l'innovation pour l'information de TF1.
L'idée, c'est de surtout pas tomber dans le piège de la personnalisation à outrance, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, où lorsqu'on s'intéresse à une thématique, on va être constamment abreuvé de cette thématique sans découvrir d'autres choses et en étant un petit peu fermé sur ce qui peut se passer dans le reste du monde, dans le reste de l'actualité. On veut surtout pas faire un JT 100% personnalisé, ce serait une vraie erreur. L'information, elle doit exister avec une hiérarchie journalistique et ne pas justement enfermer les gens dans des bulles, des filtres de préférence. Ce serait extrêmement dangereux et c'est vraiment pas ce qu'on essaie de faire.
Dans chaque journal personnalisé donc, il y aura des sujets incontournables, les informations essentielles du jour choisies par la rédaction. Les autres, eh bien, elles vous seront proposées en fonction des thématiques que vous aurez choisies, économie, environnement, sport par exemple. Cela fait plus d'un an et demi que la chaîne travaille sur ce projet de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Une première mondiale selon TF1 qui espère ainsi attirer un nouveau public.
TF1 encore et Koh-Lanta qui revient bientôt avec des nouveautés.
La 20e saison du jeu d'aventure arrive dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Ce sera le 12 mars précisément, vendredi soir, le soir de la cérémonie des Césars pour la petite histoire. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est le titre de cette nouvelle édition qui a été tournée en Polynésie française l'automne dernier. Ces armes, eh bien, ce sont les grandes nouveautés du jeu, notamment un bracelet noir qui aura le pouvoir, je ne vous dis que cela, d'annuler le pouvoir du collier d'immunité.
Un bracelet noir. Aucun rapport, la purge continue au service des sports de Canal+.
3 pigistes réguliers ont été récemment remerciés. C'est le média en ligne Les Jours qui le révèle. La direction leur reproche d'avoir signé un communiqué de la Société des journalistes de la chaîne qui soutenait Sébastien Thoen. L'humoriste venait alors d'être licencié pour une parodie de L'Heure des Pros, émission de CNews. On était en décembre. Ce texte de la SDJ avait été signé par 150 personnes, parmi elles une cinquantaine l'avait fait de manière anonyme.
Et le focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire fascinant sur les dessous d'Instagram.
C'est une plongée dans le monde de ce réseau social qui réunit 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Une simple application de partage de photos à l'origine devenue un système économique à part entière qui tourne autour des influenceurs, ces Instagrammeurs donc souvent payés par des marques pour mettre en avant quelques-uns de leurs produits. Ils sont suivis, et c'est là leur force commerciale, par des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes, pas toujours réelles, car ce qui gouverne Instagram, c'est aussi le faux, la triche. C'est ce que révèle ce documentaire « Follow me sur Instagram » réalisé par la télévision publique néerlandaise. Le réseau social est devenu le royaume du faux, selon Jean-Bernard Schmitt, cofondateur du Média Spicy, qui diffuse le documentaire en France.
C'est toute une économie, alors avec une partie très obscure et une partie moins obscure. Une partie obscure en ce sens qu'il y a des hackers qui se cachent derrière des sites qui vous permettent d'acheter en quelques minutes, c'est assez impressionnant d'ailleurs dans le doc, en quelques minutes, 10 000 abonnés, 10 000 likes sur une photo. Et de l'autre côté, il y a une partie qui se fait totalement à visage découvert avec des entreprises qui sont devenues spécialistes de la rédaction de faux commentaires sur des campagnes promotionnelles, sur des produits de beauté, sur de l'électroménager, sur des voitures. Des annonceurs, donc, en fait, qui, très ouvertement, demandent de faux commentaires, voire rédigent eux-mêmes les commentaires qu'ils veulent voir postés sur leurs produits.
Méfiez-vous donc, il y aurait environ 100 millions de faux comptes en circulation sur Instagram. Même les plus grandes stars y ont recours pour gonfler leur nombre d'abonnés. Le compte de Katy Perry, par exemple, la chanteuse, serait ainsi composé d'environ 20% de bots, ces robots, ces faux abonnés. Cela fait tout de même 14 millions de personnes et elle est loin d'être la seule. La grande absente du documentaire, c'est la direction d'Instagram, dont Facebook est propriétaire. Elle n'a évidemment aucun intérêt à communiquer sur ses pratiques. Les marques se détourneraient de l'application. Cela dit, c'est ce qu'ont commencé à faire certaines de ces marques. Elles estiment que leur publicité atteigne moins de vraies personnes que prévu. Follow me sur Instagram, je vous rappelle le titre de ce documentaire signé Nicolas Veul, c'est à voir sur spicy.com.
Quel accent néerlandais, bravo. Changement de cap pour Disney+ en France.
La plateforme ne va plus seulement proposer des programmes familiaux, elle va aussi diffuser désormais d'autres contenus davantage destinés aux adultes. Die Hard, Piège de cristal en français, Pretty Woman, Grand Budapest Hotel, Grey's Anatomy par exemple. En tout, 250 films et documentaires ainsi qu'une quarantaine de séries. Tout cela disponible mardi prochain. Ils seront réunis dans une nouvelle branche de la plateforme baptisée Star. Il faudra un code pour y accéder.
Si on suit bien, Disney+ concurrence de cette manière encore davantage Netflix, d'autant qu'elle va encore enrichir son offre.
Oui, avec 4 créations exclusives, des productions françaises pour respecter la loi et participer au financement de la création française. Il y aura ainsi une mini-série autour de l'affaire Malik Oussekine, vous vous en souvenez peut-être, un étudiant tué par des policiers en marge d'une manifestation en 1986. Une série documentaire sur le chanteur Soprano, une série fantastique aussi, parallèle, et puis une comédie familiale, Weekend Family. Le catalogue s'élargit donc, et le prix augmente, 2 euros de plus par mois, soit un abonnement qui passe à 8,99 €, 20 euros de plus pour la formule annuelle. Star, je vous le rappelle, arrive mardi prochain sur Disney+.
Merci beaucoup, et toutes les infos, évidemment, on peut les retrouver avec d'autres sur la newsletter Média d'Europe 1, c'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Louise Bernard, des nouvelles du côté de Médiamétrie?
Non, toujours pas, c'est toujours en panne.
Alors, je vous dis à demain. Merci Louise Bernard, merci Antoine Janton.
Ouais,
Louise,
ouais,
on vous retrouve justement tout à l'heure pour parler de Kandinsky et peut-être qu'il y aura les audiences.
Peut-être que je vous donnerai les audiences et en même temps Kandinsky, ça voilà. Sera une nouveauté.
On reste dans les grilles, si j'ose dire. Dans notre instant, l'info média du jour avec le deuxième numéro de la face cachée, format d'interview en face-à-face rare sur Internet. Nous en parlons avec son présentateur, c'est le musicien batteur Manu Katché, d'où le titre du programme, et le patron des programmes et des acquisitions de Yahoo France, Alexandre Delperrier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est un type d'émission qu'on a paradoxalement peu l'habitude de voir sur les sites d'information. Un entretien en tête-à-tête qui plus est entre deux stars, l'animateur et son invité. C'est Yahoo.fr qui en a eu l'idée, qu'il diffuse depuis la fin de l'an dernier. Le deuxième numéro vient d'être mis en ligne. Bonjour Alexandre Delperrier.
Bonjour Philippe, merci de nous recevoir.
Vous êtes le directeur des programmes, des contenus et des acquisitions de Yahoo France. En gros, vous êtes le patron de Yahoo France. Bonjour Manu Katché.
Bonjour Philippe.
Vous êtes musicien, batteur, faut-il le dire, l'un des plus grands batteurs du monde. On vous a entendu entre autres avec Sting, Youssou N'Dour, les Bee Gees, Jean
Jean-Jacques Goldman, Laurent Voulzy, et c'est vous qui animez cet entretien, la face cachée qui porte votre nom, entretien en tête-à-tête, je l'ai dit, avec une personnalité, Yannick Noah pour le premier numéro, Patrick Bruel pour le deuxième, sorti la semaine dernière. Vous avez déjà travaillé avec lui, avec Patrick Bruel, sur scène ou en studio?
Ce qui est très drôle avec Patrick, ça remonte à très très loin, on avait commencé tous les deux, on a à peu près le même âge, je crois.
Ouais.
Et j'avais travaillé sur son premier 45 tours, ce qui n'existe plus aujourd'hui, Marre de cette nana-là.
Ah, je me souviens, mais je ne savais pas que c'était vous derrière,
ouais,
à la batterie. Je trouvais qu'il y a un petit défaut, je me demandais pourquoi. Non, je plaisante. On va écouter un extrait de votre entretien, Manu Katché. Avant cela, quelques mots sur l'émission. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a de catché? Ou est-ce que c'est juste un jeu de mots sur votre nom?
Bah, c'est effectivement un jeu de mots, mais c'est aussi la face catchée. Ce n'est pas qu'un jeu de mots, parce que ce qu'elle a de catché ou caché,
ouais,
c'est qu'effectivement, on peut se méprendre sur l'apparence de certaines personnes qui ont eu un départ dans la vie un peu compliqué, avec une enfance un peu trouble, du fait d'une différence et du fait de la diversité. Donc, c'est un jeu de mots, et également, ça veut dire ce que ça veut dire.
Un dispositif minimaliste, un format court, 10 minutes. Alexandre Delperrier, pourquoi avez-vous demandé à Manu Katché de mener ces entretiens? C'était l'idée de qui? C'est Manu Katché qui est venu vous voir ou c'est vous qui l'avez appelé?
C'est moi, en travaillant avec mes équipes, on réfléchissait, on voulait traiter la diversité, parce que Yahoo, on est à la fois un site d'information, mais on est aussi un site où on aime se donner une mission un peu sociétale. On le fait avec les femmes, avec des complexés, on le fait sur la sexo, on le fait sur différentes thématiques, et on s'est dit comment traiter la diversité. Et puis, je suis parti à la recherche d'une personne, l'homme Gérard, qui serait capable de mener des entretiens qui soient inspirants. On voulait surtout pas quelque chose qui soit dans le combat agressif, parce que je pense que plus on rajoute d'agressivité sur cette thématique, plus le fossé va s'élargir. Donc je voulais quelqu'un qui soit mûr, mature, intelligent, ouvert, qui ait toutes ces valeurs-là. Et puis en discutant avec différents amis, un autre Manu d'ailleurs, qui m'a dit « Mais cherche pas Alex, je sais qui il te faut Manu Katché. » On s'est appelé, on s'est vu, on a passé 3 heures ensemble, on se connaissait pas. Et voilà, ça l'a fait. Et puis on a commencé au mois de septembre avec le formidable peintre Omen Guyenne. On a fait Yannick Noah avec ces 2 épisodes qui sont juste bouleversants. Moi, je me souviens que le soir du tournage chez Yannick, parce qu'on va chez les gens, c'est ça qui est cool. Et en rentrant de chez Yannick, je suis arrivé chez moi et j'ai regardé mes enfants et je leur ai dit « Vous voyez les gars, pour la première fois de ma vie, je me suis senti, entre guillemets, black.
Ouais. »
J'ai vu Manu et Yannick ensemble parler comme ça, le chemin de vie de Yannick, il était époustouflant.
Ils ont quel âge vos enfants?
17 et 14.
D'accord, je crois que vous les appelez les gars. Manu Katché, votre nouvel invité. Avant qu'on va entendre tout à l'heure du son de Yannick Noah, mais là, ce nouvel invité qui arrive, qui est mis en ligne, c'est Patrick Bruel.
Oui.
Pourquoi lui et de quoi lui avez-vous parlé?
Bah déjà, c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps et on a principalement orienté la discussion sur l'antisémitisme. C'est pour ça que je vous disais auparavant que parfois, évidemment, sur le visage, c'est pas inscrit. Les origines ne sont pas inscrites, mais lui, ça lui a beaucoup marqué dans son adolescence et il a fait un chemin assez incroyable. Il a une vraie réflexion là-dessus, donc j'avais vraiment envie d'avoir son avis, son témoignage.
Alors Patrick Bruel vous a parlé de sa famille ouverte, progressiste, dans laquelle on pouvait parler, débattre, s'affirmer. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, notamment en s'engageant contre l'extrême droite, contre le Front National. Premier coup de gueule, c'était en 1991 face à Anne Sinclair dans l'émission 7 sur 7, qui n'existe plus. Une prise de position qui, à l'époque, avait fait réagir le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, et Patrick Bruel vous a raconté cet épisode.
Il va commencer par le chanteur Ben Guigui. Nous passerons des vocalises du chanteur Ben Guigui, ce jeune chiot mal lavé. Hey mec, viens m'attaquer sur mes idées, viens m'attaquer, mais pas sur mon nom, sur ma religion, sur mon appartenance. T'es pas à la hauteur, en fait, en vrai. Donc, mais en 2014, ça va encore plus loin, parce que là, c'est... Ben lui, de toute façon, il partira avec la prochaine fournée.
Ouf.
Et quand cette phrase est prononcée, alors là, c'est une grande violence. Parce que c'est plus moi, là. C'est la mémoire de 6 millions de gens. C'est une histoire. C'est la République. Mais la réaction, à ce moment-là, de sa fille, est une réaction, pour moi, pire encore. Parce qu'elle dit, c'est une faute stratégique grave. J'aurais aimé entendre, c'est une faute éthique, c'est une faute philosophique, c'est une faute historique, c'est une faute émotionnelle.
Pas stratégique.
Mais pas stratégique.
Il se souvient encore par cœur, évidemment, des termes. Il parle facilement de politique, Patrick Bruel, Manu Katché.
Oui, aisément. Alors c'est vrai que Encore une fois, grâce à Alexandre Delperrier, l'idée de m'avoir mis effectivement en scène, j'ai une proximité. Je ne suis pas journaliste, ce n'est pas du tout péjoratif, mais je n'ai pas effectivement une manière d'interviewer, c'est plutôt une conversation. Donc les gens se livrent et au bout d'un moment, il y a des informations qui viennent parce qu'il y a des choses qui ont été très marquantes, des fêlures. Et je pense qu'on peut oublier, parce qu'il en a parlé effectivement d'une manière publique, mais je pense qu'on peut oublier certaines choses. Et je crois que c'est effectivement ce qui est important par rapport à ces gens-là. Lui ou Yannick ou Homme Nguyen, c'est le parcours à partir de ces violences dites ou émises.
Une des fêlures de Patrick Bruel et dont il parle rarement, c'est son père. Alexandre Delperrier, que dit-il sur son père ?
Il dit qu'il a grandi sans son père. Il dit qu'il s'est forgé cette âme d'homme, d'artiste, un peu seul. C'est des chemins de vie. Et moi, c'est ça que je trouve assez exceptionnel sur ce programme-là. Et je suis toujours très, très ému. C'est que les gens viennent véritablement se livrer. Manu, effectivement, c'est pas un journaliste qui vient pour te faire « Vas-y, crash, on va faire du sensationnel ». Non, raconte-moi ta vie. Et c'est tellement inspirant. Et vous verrez, parce qu'on va mettre en ligne dans une quinzaine de jours le prochain numéro qu'on a tourné il y a un mois maintenant, qui est le journaliste de sport Mohamed Bouafsi. J'ai terminé le montage il y a une semaine, j'ai pleuré pendant les 10 minutes de l'interview. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Et là, on va tourner tout à l'heure chez Marie-Jo Pérec. Et demain, on va tourner avec Joe Estar. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire. Mais c'est... Enfin, je sais pas ce qu'en pense Manu, mais on ressort à chaque fois, on se regarde, on a limite les larmes aux yeux et on se dit... Putain, on a fait notre job, quoi.
Vous dites que vous n'êtes pas journaliste, vous préparez les entretiens énormément ou est-ce que vous vous laissez guider par l'émotion et par les réponses qui arrivent ?
Alors, je me documente et ensuite je rebondis. J'ai vraiment un rôle de batteur quand j'écoute ce qui se passe autour de moi.
Donc en gros, c'est un travail de journaliste. C'est un peu comme ça. On se documente et ensuite on rebondit.
Merci Philippe.
Autre extrait de l'entretien avec Patrick Bruel consacré au fait d'être de confession juive aujourd'hui en France. Et c'est vous, Manu Katché, évidemment, qui lui posez cette question.
Si je te dis être juif en 2020, qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me réponds ?
On est juif à partir du moment où on nous le reproche. Si tu m'en parles pas, ça n'intervient pas. Ça intervient pour moi, ça intervient dans ma culture, dans mes croyances, dans mon quotidien. Mais aux yeux de l'autre, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Mm-hmm. Ça ne doit pas exister. Je pense que si l'adolescent rencontre celui qu'il est devenu, je crois qu'il se regarde dans les yeux, et même qu'il se prenne dans les bras, et qu'il se dit « ça va, tu m'as pas trahi, quoi, ça se passe bien, fais bon ménage
». Patrick Bruel est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par 5 femmes, 2 enquêtes ont été ouvertes, je ne trahis pas un secret, c'était dans toute la presse. Est-ce que vous l'avez, Manu Katché, interrogé sur ce sujet ?
Ah, c'était pas le sujet, moi c'est la diversité, c'est les témoignages sans aucune agressivité. Après le reste, je peux effectivement, comme tout citoyen français, être au courant, mais c'est déjà quelqu'un de très très proche, que je connais quand même très très bien depuis un bon nombre d'années. Et là c'était pas le débat, donc j'avais pas envie d'évoquer ça.
Et je me tourne vers vous, Alexandre Delperrier. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette dimension-là obère les questions et l'interview ? Est-ce qu'il n'y avait pas ce sous-texte autour de cet entretien ? Est-ce que Patrick Bruel a posé des conditions au préalable ?
Alors oui, il a posé une condition, c'est d'être libre. Et Manu, quand on a commencé à travailler ensemble, m'a dit exactement la même chose. Donc véritablement, on en revient là-dessus, c'est une émission...
Mais il ne l'a pas posé pour terminer sur ce sujet-là.
Pas du tout, mais
il
pas
n'a
du
pas
tout.
Demandé à ce
mais
que
non.
ce sujet ne soit pas évoqué.
Non,
c'est
pas
de
tout.
Vous-même que vous ne l'avez pas évoqué.
Ah bah, la face cachée, c'est quoi ? La face cachée, c'est une émission sur la diversité où des gens inspirants viennent raconter leur chemin de vie, les difficultés liées à leurs origines, à leur couleur de peau. Point. Voilà. On n'a pas reçu Patrick Bruel pour faire un 52 minutes sur ta vie, ton œuvre. C'était pas vraiment pas le débat. Et puis jusqu'à preuve du contraire, je crois pas que Patrick Bruel ait été mis en examen.
Non.
Quel est le dispositif technique et comment faites-vous, Manu Katché, pour mettre vos invités en confiance ? On en parle juste après ça. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La face cachée présentée par Manu Katché avec Patrick Bruel pour le numéro qui vient d'être mis en ligne, c'est à voir sur yahoo.fr. Comment vous faites, Manu Katché, pour mettre vos invités en confiance ? C'est parce que cette relation de confiance préexistait à l'entretien ?
Oui, alors pour lui notamment, pas forcément pour tous les autres, mais ce qui se passe, c'est que vous voyez effectivement à peu près une dizaine de minutes, mais la conversation dure 2 heures. Donc un exemple, par exemple, avec Angoun, que j'avais connaissais un petit peu moins bien. On avait travaillé une fois ensemble avec elle et Youssou N'Dour. Et j'avais vraiment envie qu'elle me lâche des informations, que je m'étais documenté. Je m'étais documenté, je savais qu'il y avait quelque chose à dire. Elle ne me le disait pas, elle était très souriante, tout était bien, star en Indonésie. Et finalement, via son enfant, sa fille, j'ai eu le moyen de rentrer un peu plus à l'intérieur. Et là, elle a commencé à parler à la fin de la conversation.
Je me tourne vers Alexandre Derpaille. Il y a quelque chose qui m'étonne dans ce que vient de dire Manu Katché. Il dit « La conversation avec Angoune a duré 2 heures, on a gardé 10 minutes. Or, quand les gens se sont lancés sur Internet, ils faisaient référence à la télévision. Ils disaient « On n'est pas obligé de couper, on a le temps pour nous, on n'est pas obligé de réduire à 10 minutes ». 2 heures d'entretien, pourquoi ne pas laisser la durée de l'entretien ou une plus grande partie ?
Parce que, comme tous les médias, on est soumis à des objectifs d'audience.
Ouais.
Alors là, c'est moi qui me les fixe, mais je sais très bien qu'une interview de 2 heures fonctionnera moins bien que quelque chose qu'on va ramener à 10 minutes. Yannick Noah, c'était 2 fois 12 minutes. Mmh. Voilà, ça dépend. Et puis après, il y a des... Alors, on va rentrer un peu dans la technique, mais après, il y a... Il y a ce que l'on met sur notre site, sur yahoo.fr, et puis après il y a ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, il y a des tailles maximales, des durées maximales. Par exemple, Mohamed Bouafsi, je me suis battu pendant une journée pour le ramener de 12 minutes à 9 minutes et 59 secondes pour que sur Twitter on puisse le jouer en intégralité.
Ouais, vous êtes battu avec le chronomètre pour que ça rentre.
Je me suis battu avec, avec ma conscience aussi, parce que c'est très compliqué quand on a des choses qui sont aussi fortes. Parce que là, on n'est pas en train de s'amuser. Véritablement, quand on parle de mission sociétale, c'est vrai. Moi, la diversité, ça me touche. Ça m'affecte, c'est notre quotidien. Je vois une société qui se fracture, qui se divise, et j'espère qu'avec ce programme-là, vous voyez, j'en suis ému de le dire, j'espère qu'avec ce programme-là et grâce à Manu, qu'on va arriver à faire avancer les choses dans le bon sens.
Comment vous définissez la diversité ? On l'a vu, Yannick Noah est d'origine camerounaise, Patrick Bruel est juif. Comment vous définiriez la diversité ?
Vous venez de la définir, à savoir qu'il y a des origines de chacun différents, même si ces gens-là sont totalement français.
Ouais. Donc, je ne connais pas ses origines, mais est-ce qu'Alexandre Delperrier pourrait venir être interviewé par vous ?
Je ne connais pas ses origines à Alexandre, mais je ne crois pas. Et Philippe, je ne connais pas vos origines non plus, je ne crois pas non plus. Non, effectivement, il faut qu'il y ait un vrai mélange, c'est tout l'intérêt, puisqu'on entend souvent aujourd'hui le vivre ensemble. Mm-hmm. Le vivre ensemble veut dire qu'effectivement, ça fait, c'est un rapport direct avec les gens d'origines différentes, aussi bien culturelles. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire, voilà, ces gens-là sont français, sont sur ce territoire ici depuis des années, se considèrent comme des Français, mais avec une culture au tout départ qui leur a été donnée ou par leur papa ou par leur maman, un tout petit peu différente, et il faut la gérer au sein de notre société. Et parfois, on leur en fait le reproche.
Illustration de ce que vous venez de dire à l'instant avec l'un de vos premiers invités, Yannick Noah. Il s'est confié comme rarement, à tel point que vous avez monté, Alexandre Perrier l'a dit, 2 épisodes. Noah raconte notamment son arrivée à Nice, seul, à 12 ans, pour jouer au tennis, pour apprendre son métier. Il revient également sur sa détermination, sa volonté, grâce à laquelle il est devenu joueur professionnel, lui que ses camarades de classe appelaient Bamboule.
En fait, la vraie question... Et la réponse à trouver, c'est pourquoi tu fais ce métier ? Alors la réponse, souvent, c'est pour gagner des matchs. Mais pourquoi tu veux gagner des matchs ? Et là, ça devient intéressant. Et c'est là qu'il faut avoir la vraie réponse. Et moi, je le faisais parce que je voulais qu'un jour... Mon rêve, c'était un jour qu'on oublie, justement, Bamboule. Qu'on oublie. C'était ça, mon rêve.
Ouais.
Mon rêve, très précisément, c'était ça.
Très émouvant. Manu Katché. Les prochains invités, vous les avez dit, les prochains invités que vous les targetez, les cibles, les prochains invités que vous aimeriez recevoir.
Alors, à part ceux qu'on a cités précédemment, Laurent Voulzy, Sissoko, ex-champion olympique de boxe, il y a quelques femmes que je ne me souviens plus exactement tous les noms parce qu'on en a sourcé pas mal avec Alexandre.
Et Alexandre... On y travaille beaucoup et là où je suis ravi, c'est qu'on se rend compte que, alors grâce certes au nom et au carnet d'adresse de Manu, mais je pense que les gens réagissent et comprennent qu'il y a une volonté, il y a beaucoup de bienveillance derrière tout ça. C'est on veut avancer, on veut montrer. Ils sont tellement inspirants, tous ces gens-là. Et là, j'entendais Yannick, et je me revoyais caché derrière la table sur le tournage chez lui, et ça m'a fait penser à Mohamed Bouafsi, qui sera diffusé dans 3 semaines, qui lui aussi... nous a expliqué que grâce au travail ou avec ses notes à l'école, alors que lui, le petit garçon d'origine musulmane qui venait de la cité, se faisait rembrouer à longueur de journée, grâce aux notes, il allait leur faire fermer leur bouche. Et Yannick, il dit la même chose. Il dit, moi, je suis arrivé, j'étais le plus petit, j'étais le plus jeune, mais au bout de 6 mois, parce que moi, je me levais 1 heure plus tôt que tous les autres dans ce sport-études à Nice, parce que tous les soirs, je me couchais 1 heure plus tard que les autres parce que j'allais recourir ici et là, au bout de 6 mois, je les battais. Et on oubliait ma couleur.
Alexandre Delpaille, quelques mots sur Yahoo.fr, site d'actualité que vous dirigez. Son audience a presque doublé en un an. 3 600 000 visiteurs uniques par mois en moyenne en 2020. Près de 7 millions en 2019, pardon, et près de 7 millions l'an dernier en 2020. Une hausse de 92%. Comment vous l'expliquez au-delà du phénomène du confinement ?
Moi, je me souviens quand je suis arrivé chez Yahoo il y a 7 ans pour prendre la direction des sports. Et puis, depuis 5 ans maintenant, j'ai la responsabilité de toutes les thématiques. Je faisais de la télé, j'avais fait de la radio et je me souviens que beaucoup de gens me disaient mais pourquoi tu vas t'enfermer chez Yahoo? Je dis parce que moi j'ai besoin de comprendre, d'abord pour moi c'est les médias, le digital c'est les médias d'aujourd'hui et de demain et on sait très bien que la croissance elle va se faire ici, après savoir aujourd'hui comment les gens consomment, ce que les gens veulent consommer, à qui on doit donner la parole, voilà, c'est des choses qui s'apprennent et j'ai la chance d'avoir toute une équipe formidable autour de moi et on fait un travail tous ensemble.
Mais alors, pardonnez ma question qui est une sorte de compliment, vous avez quasiment doublé vos audiences en un an, dans le même temps Google News plus 60%, j'allais dire seulement, enfin c'est moins que vous, Orange Actu moins 16%. Pourquoi vous réussissez là où les autres réussissent moins ?
Bah, déjà être numéro 1 et être devant Google News, ça a été un vrai bonheur. C'est parce que... j'ai pas de recette magique.
Bon,
voilà. Non, mais
alors, je vais quand même vous dire une chose.
J'ai pas de recette magique. Si ce n'est que je pense savoir m'entourer.
Oui, mais tous savent s'entourer. À Google, si je pose la question aux gens de Google, ils me diraient ça.
Non, c'est pas aussi simple que ça parce que moi, je sais très bien que Levana, qui gère l'équipe de la news, je sais très bien qu'avec toute son équipe, je sais très bien qu'ils vont trouver les bonnes idées, les bonnes préoccupations, les bonnes avancées quand on lance un format.
Je vous interromps. Et les bonnes techniques. Quelques techniques pour attirer les visiteurs et les retenir. Par exemple, hier, en une de votre site, il y a une photo, celle d'un homme prise de dos, on devine son visage, et ce titre « Je me sers de la drogue comme d'une béquille ». Juste en dessous, ces quelques mots. Cette star internationale a révélé consommer régulièrement des substances illicites pour avoir un soutien et réussir à travailler. Il avait commencé à l'adolescence. Point. Et là, généralement, on a envie de cliquer pour savoir qui est cette star. J'ai cliqué et je suis tombé sur un article titré « En image, The Weeknd fête ses 31 ans ». Plus aucun rapport avec la drogue qui est évoqué bien plus bas, six paragraphes plus bas. Pourquoi ne pas donner ce nom dans le titre ? Est-ce que ça, c'est pas une technique qu'on appelle le clickbait, c'est-à-dire le piège à clic ?
Vous pouvez l'entendre comme cela, je peux le comprendre. Néanmoins, cette thématique sur la drogue était traitée un peu plus loin. Après, c'est ce que l'on appelle des slideshows et c'est souvent pour revenir sur la carrière ou des anniversaires de personnalités. Et il se trouve qu'il y a 20-30 sujets sur cette même personne. Donc il y avait ça. Donc oui, on a décidé d'accrocher là-dessus. Voilà.
Alors cet article, c'est une journaliste de Yahoo qui l'a écrit. La plupart de vos papiers que vous publiez viennent d'autres sites, de Voici, de Gala, de 20 Minutes.
D'Europe 1.
Ouais. Comment vous nous rémunérez ? Est-ce que vous nous rémunérez ? Est-ce que vous rémunérez les autres sites et comment ?
Alors en principe, ce qui se passe, c'est qu'on passe un deal ensemble. Donc il y a des contrats, évidemment, c'est tout ça est tout à fait sérieux, cadré et dans un cadre particulièrement... déterminés, on a ce qu'on appelle des liens de redirection. C'est-à-dire que les articles d'Europe 1 que l'on agrège... En fait, ce qu'il faudrait d'abord dire, c'est que nous, ou on agrège du contenu, ou on crée du contenu. La phase cachée, on le crée. Quand on reçoit les articles d'Europe 1, tous les articles d'Europe 1, au bout de 1500 signes, c'est-à-dire grosso modo la moitié de l'article, il y a un lien qui dit, si vous voulez lire la suite, allez sur Europe 1. Voilà, donc ça, on génère une audience supplémentaire pour vous, qui, j'espère et je le crois, est assez croissante. Voilà, et puis on le fait avec différentes marques, différents médias qu'on a déterminés avec les équipes.
Tout à fait autre chose, malheureusement, je veux parler de ce sujet avec Manu Katché, avec vous, Alexandre Delperrier, mais surtout avec Manu. On a appris la mort de Tonton David hier, artiste avec lequel vous avez travaillé. Vous aviez composé la bande originale du film Un Indien dans la ville, notamment cette chanson.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déserté, chacun sa route.
C'est vous à la batterie et pas seulement. Quel souvenir vous gardez de Tonton David ?
C'est un super souvenir. C'est une musique de film que j'ai fait il y a un petit moment, en 94. C'était un beau souvenir que je ne connaissais pas, Tonton David, du tout. Et ça, il y avait Jeffrey Oriema aussi, qui avait été signé par le label Real World de Peter Yamouyel. Donc il y avait une espèce de trio comme ça d'Africains, franco-africains, et ça a pulsé immédiatement. Il y avait plein d'idées. On a beaucoup rigolé. Tonton David était vraiment quelqu'un de beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, une vraie joie de vivre. Et quand j'ai appris la nouvelle hier soir, j'étais super triste parce que déjà tout jeune, 53 balais, c'est pas franchement vieux, et toujours à la recherche d'un truc. Je me souviens, pendant la musique du film L'Indien dans la ville, on cherchait des gimmicks. Il était content, mais ouais, Manu, si on fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est plus ragamuffin, ça, c'est plus Marlène, non, plutôt. Toujours à la recherche. Moi, j'aime bien cette espèce de curieux, comme ça, de curiosité sans cesse, avec une bonne humeur et un sublime sourire sur le visage. Et c'est vrai que ça m'a franchement rendu triste, quoi.
Et je souris en vous écoutant, parce que pour l'avoir connu, c'est un personnage très, très, très souriant.
C'est ça.
Ouais.
Ça m'a vraiment marqué, et d'apprendre sa mort, ça, je vous le dis, j'ai du mal à en parler parce que ça m'a...
Je le sens.
Ouais, c'est
Vous avez la gorge nouée, moi aussi. Merci d'avoir été avec nous, Manu Katché. On vous
Philippe.
Sauve. Merci beaucoup, Alexandre Delperrier. La face Katché avec Patrick Bruel pour le deuxième numéro, c'est sur yahoo.fr. Évidemment, on retrouve tous les numéros précédents. C'est le principe d'Internet. Dans un instant, on va parler de Blast, nouveau média libre et indépendant, financé par le don de ses lecteurs. Nous serons avec son créateur, le journaliste d'investigation, Denis Robert. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Pendant que j'installe ma bonnette, je salue Denis Robert. Bonjour Denis Robert.
Bonjour Philippe.
Journaliste, écrivain, passé par Libération, vous êtes connu pour avoir révélé l'affaire Clearstream, la première, celle qui dénonçait le mécanisme de cette chambre de compensation financière du Luxembourg. Vous avez subi plus d'une soixantaine de procédures judiciaires contre vous avant d'être finalement blanchi dans toutes les actions. Votre dernier livre, Larry et moi, décortique la multinationale américaine BlackRock qui gère plus de 30 000 milliards de dollars par an, ce qui ferait de son patron Larry Fink l'homme le plus puissant du monde. Mais d'abord votre actualité, il est aussi un peu question d'argent. Le lancement de Blast, c'est une web télé, financement participatif sur KissKissBankBank, et ça se passe très bien, mais d'abord le contenu. Blast, on pourrait traduire le mot par déflagration, par destruction. Qu'est-ce que vous voulez détruire? Qu'est-ce qu'on va voir sur Blast?
Blast, c'est avant tout du souffle, c'est un peu le souffle de l'info, c'est un peu la baseline qu'on a, à laquelle on avait pensé. Mmh. Mais, Blast sera un site d'information autant qu'une web TV. Et c'est un site d'information généraliste, c'est-à-dire qu'on va traiter de tout. On va traiter d'actualités politiques, on va faire beaucoup d'investigations, sortir des affaires, mais aussi on va parler de culture. On aura des critiques littéraires, on aura des alors on a beaucoup d'actualités sur l'écologie et d'analyses sur l'économie aussi. Mmh. Donc c'est vraiment l'ambition est d'être un site généraliste qui touche le plus grand nombre de personnes en accès libre. C'est-à-dire que nos abonnés ont des contenus privilégiés, mais c'est un peu le contraire de Canal+. Vous voyez, Canal+, dans les années 80, c'était 90 de crypté, 10 de clair.
Ouais.
Nous, c'est 95 de clair et 5 de crypté. Et donc, voilà quoi. Et c'est vrai que les derniers jours qu'on vit sont assez extraordinaires parce qu'on est, j'ai regardé ce matin avant l'émission, on est à 620 000 euros de contribution.
Ouais. 617 000, j'ai regardé.
7 000 abonnés déjà.
Exactement, j'ai vu ça. Dans votre présentation, vous nous interpellez, nous les lecteurs, vous écrivez ceci: imaginez un monde dans lequel vous n'aurez plus besoin d'aller sur BFM TV ou CNews pour voir les images d'une manifestation ou suivre toute actualité chaude. Et donc, concrètement, dans une manifestation, puisque vous prenez cet exemple, qu'est-ce que vous allez filmer que les chaînes d'infos ne filment pas?
C'est par le choix des journalistes et par notre regard. Enfin, quand vous regardez Brut, vous voyez pas la même chose qu'à BFM.
J'ai bien compris. Mais votre exemple, c'était
tellement évident.
Dans votre exemple, c'était les images d'une manifestation. Donc, il y a une manifestation et il y a CNews et BFM TV. Ils sont là, ils filment. Et vous dites, nous, on va vous montrer les images que les autres ne vous montrent pas. Qu'est-ce que vous allez montrer dans une manif que les autres ne vous montrent pas?
Non, mais après, d'abord, il faudra la vivre in situ. Mais je pense que les gens qui travailleront pour Blast, et on a déjà des personnes qui ont réfléchi à ça. Je pense à Gaspard Glanz, par exemple, qui va nous rejoindre. Ils ont une certaine manière de filmer, d'être présent, et surtout d'être plutôt du côté des gilets jaunes et des bavures et des accidents de police, ouais, etc.
Que derrière la police.
Aussi, sans doute, des gens qui seront derrière la police. Mais ouais, si vous voulez, quand vous regardez les médias mainstream, vous êtes beaucoup plus dans la propagande et dans l'idée que combien de fois on a entendu, surtout sur le traitement des gilets jaunes, à quel point les gilets jaunes étaient violents, à quel point ils étaient méchants, etc. Et les policiers défendaient la République, etc. Moi, je pense pas du tout ça. Et je pense que en étant à la manif et en filmant la manif de l'intérieur, on pourra montrer d'autres images, un autre point de vue, quoi. Mais pas forcément un point de vue militant, engagé, etc. Mais je crois que quand on est libre et quand on est financé librement, on est libre de regarder ce qu'on a envie de regarder. Donc et je pense aussi que l'information est un combat. Mmh. Donc voilà, je suis dans cette perspective-là.
C'est une éternelle question du journalisme. Si une voiture brûle, est-ce que vous allez filmer la voiture qui brûle ou est-ce que vous allez ne pas filmer la voiture qui brûle ?
Ça dépend où elle brûle, comment elle brûle, mais je vais plutôt filmer la voiture qui brûle. Moi, je suis pas un journaliste des bonnes nouvelles ou des trains qui arrivent à l'heure, quoi. Si vous voulez, on est là pour. En plus, on va pas avoir l'effectif de BFM. Au départ, on va être une vingtaine, vous voyez. Donc, on va choisir nos sujets, on va choisir. Puis des manifs. En ce moment, entre nous, il y en a pas beaucoup, hein. Donc, il subsiste tous les samedis des gilets jaunes qui manifestent, mais c'est pas. On les suivra d'ailleurs, mais on ira mettre nos caméras ailleurs. On ira beaucoup en province. On ira voir des. Je sais pas, enfin, tout va dépendre de l'actualité, quoi.
Denis Robert, vous avez une ambition qui n'est pas mince, je vous cite là encore. Grâce à nos directs, nous allons concurrencer les chaînes d'infos en continu qui nous abreuvent d'informations auxquelles nous ne croyons plus. Il y a un passage révélateur dans cette phrase, c'est « les informations auxquelles nous ne croyons plus ». Il faut croire à une information pour qu'elle soit exacte. La foi passe avant les faits.
Je faisais référence en fait à un sondage qui est quand même assez épatant. Qui dit que de toutes les chaînes, toute info, celle qui est la plus regardée, c'est BFM, et c'est également celle à laquelle les gens croient le moins.
C'était juste un tout petit mot, c'était exactement comme ça du temps où il n'y avait que 6 chaînes, et c'était TF1 qui était victime de cet effet-là. C'était la plus regardée et la moins crue. Et désormais, c'est BFM TV.
C'est un strabisme assez étrange.
Donc exactement.
Nous, ce qu'on voudrait, enfin, c'est une ambition qui est en même temps qui est pas spécialement démesurée, mais le point de départ, c'est que j'y réfléchis à moi-même, personnellement, mon comportement de téléspectateur, et en fait, je me rends compte que je vais beaucoup sur ces chaînes-là quand il y a des événements où je sais qu'il va y avoir des lives, à l'Assemblée ou effectivement dans des manifestations, et je me dis, tiens, au moins j'aurai une sorte d'accès au direct et je serai pris dans le réel, quoi. Et donc, la première manière de capter des téléspectateurs de ces chaînes-là, que ce soit BFM ou les autres, ça a été ça. Donc, ils ont beaucoup investi dans les lives. D'ailleurs, Brut aussi investit dans les lives et a gagné beaucoup d'adhérents grâce à ça.
Et notamment
donc,
grâce à Rémi Buisine.
Le point de départ, c'est pour ça que je voudrais qu'il y ait beaucoup de lives aussi sur Blast, pour qu'on puisse, que les gens aient le réflexe de penser, tiens, je vais aller me connecter sur Blast parce que quand il y aura un gros événement, je sais qu'ils seront là et je préfère les regarder eux qu'aller regarder les autres.
On focalise là sur les événements, mais vous annoncez également de l'investigation, des débats, des chroniques, des reportages sur le monde du travail et même de la culture. On en parle juste après une courte pause avec Denis Robert, le créateur fondateur de Blast.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Denis Robert, journaliste qui lance Blast, un site généraliste d'infos, également une web télé avec un financement participatif à retrouver sur Kiss Bank Bank, ça marche très bien, on va en reparler. On parlait de direct que vous allez filmer, des manifestations mais pas seulement, vous annoncez de l'investigation, des débats, des chroniques, des reportages sur le monde du travail et également des émissions culturelles. Vous n'êtes pas satisfait de l'offre culture des chaînes télé?
Ben, moi, je suis un nostalgique d'Apostrophe, entre autres, et des émissions de débat. Donc, que ce soit sur le cinéma, les livres, donc là, dans un premier temps, on n'a pas les moyens pour l'instant de se lancer dans ce type d'émission. Mm-hmm. J'ai déjà testé, ça coûte assez cher puisque tout le monde est évidemment payé, les locations de studio, etc. Donc on va démarrer par des critiques et par des petites vidéos et des pastilles. Mais on va traiter autant l'actualité littéraire que les jeux vidéo, que le cinéma et culture et idées au sens large. Donc sur le site, il y aura beaucoup de contenu quotidien qui traiteront de ça. Et petit à petit, en fonction des abonnés, parce que vous parliez à juste titre d'ailleurs de la campagne qui réussit, mais si vous voulez, c'est simplement le début. Là, on allume la fusée et c'est comme une trésorerie qu'on a, et ensuite les abonnements vont réellement commencer et se poursuivre. Moi, j'ai découvert dans le précédent job que j'avais qu'il y a une culture du don, c'est-à-dire que les gens ont envie aujourd'hui, parce que ça leur manque, puisque sinon comment expliquer le succès de cette campagne, ils ont envie d'un média libre et indépendant financé par eux. Et donc ces adhérents, en quelque sorte ces sociétaires, puisqu'on a créé une coopérative, payent pour que le plus large public ait accès à ces informations.
Campagne.
Et donc la campagne, elle nous sert à alimenter, à créer le site, à louer des locaux, à acheter du matériel, à payer les premiers emplois, et ensuite il y a une une sorte de roulement et le mouvement va se faire en marchant.
Et je vais le dire, la campagne a été lancée il y a un mois, le 15 janvier. Déjà près de 6 500 contributeurs. Vous attendiez 100 000 euros pour vous lancer. Vous en êtes déjà, j'ai regardé ce matin, mais vous avez vu un chiffre plus grand, 617 000 euros. Mais c'était ce matin à l'aube quand je suis arrivé vers 6 heures du matin. Il reste encore 22 jours de campagne. Vous annoncez prochain palier 800 000 euros. Et vous dites dans une interview que vous tablez sur un budget de 2 millions d'euros en année 1. Donc vous allez avoir recours à des abonnements. Il va en falloir pour arriver aux 2 millions d'euros.
Écoutez, on a eu 6500 abonnés en 24 ou 25 jours. Mmh. Une année, c'est 365 jours. Et pour équilibrer, il nous faut 25 000 abonnés.
Ouais.
Ou des sociétaires. Une part sociale, c'est 5 euros. Mmh. En plus, elle est défiscalisée. Donc, au début, quand j'expliquais ce modèle-là, on me regardait un peu avec distance en disant « ce type, il rêve, quoi ». Et là, on me regarde avec d'une autre manière aujourd'hui parce que on est en train de réussir le plus gros score jamais réalisé sur toutes les plateformes de financement pour un média et pour un objet culturel, on va dire. On a déjà dépassé de plus de 200 000 euros tout ce qui existait. Ouais. Donc, bon, c'est sans doute lié à la qualité de la campagne. Je veux bien qu'on n'ait pas trop mauvais sur la manière dont on a lancé le truc, mais je sais pas si vous serez d'accord avec moi, que ça correspond aussi à un désir d'époque.
On l'avait vu avec des médias précédents, et j'allais justement vous en parler. Quelle différence vous faites avec d'autres projets d'info indépendante, présentés comme de l'info indépendante, en tout cas, comme la chaîne, par exemple, Le Média, que vous connaissez bien, ou le site Les Jours?
Les Jours, c'est beaucoup plus presse écrite. Il n'y a pas du tout de culture télé et vidéo. Mmh. Et quant aux médias, si vous voulez, je connais tellement bien que ça s'est assez mal terminé entre eux et moi.
Je vais en parler, je vais en dire un mot.
Et il y avait quand même une des raisons pour lesquelles ça je suis parti, ou plutôt on m'a invité à partir, c'est qu'il y avait un désaccord idéologique, c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout un regard idéologique sur l'information. J'estime que le journalisme ne doit pas l'être, même si j'ai des engagements personnels, je pense à un certain nombre de choses, mais par exemple Blast ne prendra pas parti pour aucun des candidats, alors que Blast va forcément traiter de l'actualité et des futurs présidentielles, et que personnellement je souhaite briser ce schéma qu'on nous vend Macron-Le Pen, c'est-à-dire
j'ai compris.
Je crée aussi Blast pour donner aux gens des informations qui les amènent à sortir de ce piège-là.
Je vais dire un mot sur la web télé Le Média, chaîne créée en janvier 2018 par Sophia Chikirou et des proches de la France Insoumise, d'où votre marque. On appelait à l'époque Télé Mélenchon à ses débuts difficiles. Vous avez été appelé à la rescousse comme directeur de la rédaction en avril 2019, puis en octobre 2020, vous avez été licencié sans ménagement. Alors que la chaîne était proche du dépôt de bilan, quand vous êtes arrivé, un an et demi plus tard, en septembre, il y avait 450 000 euros dans les caisses, 3 mois de trésorerie, vous étiez passé de 150 000 à 700 000 followers, vous avez été licencié, vous nous avez dit pourquoi, pour des raisons notamment idéologiques. Ce qui m'a frappé, c'est ce que vous avez dit ensuite, après coup, dans Télérama, c'était le 4 décembre 2020, vous dites, sur le respect des procédures et de la convention collective, Le Média s'est comporté comme le pire des patrons voyous que l'on dénonce régulièrement à l'antenne. Vous avez porté l'affaire au prud'homme. Où en êtes-vous, Denis Robert ?
Les prud'hommes, alors j'ai découvert l'univers des prud'hommes et je trouve que bon, les juges, c'est pas du tout pour critiquer les magistrats qui jugent, mais il y a un engorgement, il y a une misère sociale,
Attend toujours d'un mot, parce que je voudrais qu'on entende Bruno Gassiot, d'un mot, vous attendez toujours que votre cas soit réglé par les prud'hommes.
Ah oui, je pense que je vais évidemment gagner parce que le dossier est lourd, mais ça va me prendre un an et demi encore.
Vous annoncez également de l'humour sur Blast. Dans votre équipe, on va retrouver Bruno Gassiot, ancien auteur des Guignols de l'info pendant 16 ans, qui arrive sur Blast pour faire quoi? Eh bien, il répond dans une vidéo extrait.
C'est un JT. Parce que je suis obsédé par ça, je suis obsédé par les JT à 20h, et j'aimerais en faire un qui soit complètement décalé, qui fasse 4-5 minutes, dans lequel on va faire de l'actualité, mais surtout de la rigolade, quoi. Qu'on essaye un peu de se détendre, quoi.
Un JT de 5 minutes signé Bruno Gassiot, on a hâte de découvrir. Vous avez vu une maquette, un pilote?
Et figurez-vous qu'ils ont démarré hier et je l'ai pas vu, mais j'ai entendu et pour l'instant les travaux préparatoires. Moi, je suis mort de rire, quoi. C'est Moi, je rêvais du retour des Guignols, mais c'était trop compliqué. Oui, et Bruno a eu cette idée-là. On a commencé à travailler avec des comédiens. Enfin, lui, hein, moi, c'est mon pote, mais c'est lui qui a cette intuition-là. Et ça va être vraiment énorme, quoi. Et je pense que ça peut devenir un programme assez phare et voire culte.
Voilà, il faut le mettre.
Parce que il y a cette liberté de ton, il y a cet humour qui manque quand même à la télévision.
Vous nous donnez une deuxième information, pardon de vous couper, vous nous donnez une deuxième info, c'est qu'il y aura des textes de Gassio et également des Guignols, et j'ai qu'un seul conseil, mettez-le à 19h57 par exemple tous les jours. Merci beaucoup Denis Robert, je rappelle le lancement de Blast, web télé mais également site d'info généraliste, financement participatif, c'est à retrouver sur KissKissBankBank, la plateforme. Culture Média continue évidemment, il y aura le rappel des titres de 10h et puis ensuite Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour l'écran de veille avec des questions et des champions. Notre invité c'est la comédienne Annie Dupéret pour son rôle dans la nouvelle série de France 2, La Faute à Rousseau. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.